ben, hein, qui est déjà béni ce matin? Moi, je suis déjà béni. Je pense qu'on n'a pas besoin du message. Hein? Juste avec la louange et les annonces, non? Merci, merci Stéphane. Bienvenue ce matin encore une fois pour ceux qui sont ici, ceux qui sont ici pour la première fois, ceux qui se joignent à nous semaine en semaine, bienvenue. Mention spéciale ce matin durant le temps qu'ils sont en train d'arranger. Mention spéciale à Sam ce matin. Vous avez remarqué notre bassiste ce matin. Sam, ça me fait tellement chaud au cœur de le voir ce matin. On est vraiment bénis de t'avoir. Sam, ça a été un de nos premiers techniciens ici dans la salle. Puis on s'est attaché, qu'est-ce que tu veux, un être attaché comme ça. Fait que c'est super le fun de t'avoir avec nous ce matin. Merci de nous d'offrir cette générosité-là de ta part. D'un gros cœur, toi aussi. Donc, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence, vous me direz quand, c'est-tu correct? Non? OK. Bon, ça va, ça va. OK. Ce matin, on commence nouvelle série. En fait, c'est la saison de Noël qui commence. Merci, Cynthia. T'attendais-tu que je te le dise? Oh, merci. J'ai comme réalisé. Merci. On commence la nouvelle série ce matin. En fait, c'est une mini-série sur deux semaines, en fait, qui amorce la période de l'Avent, la période des fêtes. Donc, on commence à se mettre dans l'ambiance tranquillement. Puis comme Stéphane a dit dans les annonces, c'est dur de manquer que la saison ait commencé. Je pense même avant l'Halloween, dans les magasins, les décorations sortaient déjà. Donc, là, c'est 1er décembre aujourd'hui. C'est vraiment la période de l'Avent qui commence. Puis c'est bien de préparer nos cœurs, justement, à Noël. C'est bien de se rappeler, en fait, cette période-là, que c'est pas juste une période de, oui, de fête, de réjouissance, de voir la famille, de passer des bons moments. Mais on sait que la... Oui, ça marche? Je continue dans 2 secondes. 1, 2. Wow! Super, OK! Fait qu'on sait que cette saison-là, c'est beaucoup plus profond que ce que la société, en fait, nous propose comme style de fête. Nous, on s'en est croyants, mais c'est quand même un rappel, en fait, de qui on fête réellement, qu'est-ce qui se passe réellement, puis c'est quoi l'impact dans nos vies. Donc, la série s'appelle Incarnata. Vous allez me dire, bon, Incarnata, c'est quoi ça? En fait, dans le mot Incarnata, vous avez reconnu le mot incarné. Puis, je pense que pour la plupart parmi vous, croyants, non-croyants, tout le monde connaît Sainte Nuit, hein? Le chant Sainte Nuit. Puis on parle de Jésus qui est le Verbe incarné. Ça veut dire quoi, le Verbe incarné? En fait, Jésus est venu s'incarner. Dieu est venu s'incarner. Dieu s'est fait chair. Et puis il est venu incarner, en fait, la personne de Dieu. Il est venu incarner, pas juste la personne de Dieu, mais les promesses de Dieu. Puis c'est ça qu'on va voir ce matin. Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. C'est la fête, je l'ai dit, que Dieu vient s'incarner en homme. Dieu a choisi de venir parmi nous sous la forme d'un être humain. Ça a été annoncé, ça, des milliers de siècles avant de cette naissance-là de Dieu sur terre. Ça a été une des plus grandes, en fait, promesses accomplies, annoncées de tous les temps, de tous les prophètes, les prophéties, que cette promesse-là allait s'accomplir un jour. Et c'est exactement ça, Noël aussi. Mais de quelle façon cette histoire-là, qu'on se remémore à chaque année, puis même encore ce matin, on va voir l'histoire de Marie, un classique. C'est beau, on lit l'histoire de Marie et tout ça, elle reçoit un ange, qu'elle va être enceinte, elle va porter le Fils de Dieu. Puis nous, on lit ça comme un beau roman, et ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et tout le monde a été heureux. Mais c'est pas vraiment ça l'histoire. Mais c'est bon de se rappeler qu'est-ce qui sort de cette histoire-là, puis de quelle façon cette histoire-là, qui s'est passée il y a 2000 ans, de quelle façon cette histoire-là est liée à mon histoire beaucoup plus que je peux penser. Puis c'est bon de se rappeler ça ce matin. Donc, vous êtes prêts à continuer? Yeah? T'as dormi encore un matin? Merci, Loric. tu suis, c'est bon. Fait qu'au travers c'est des annonces qu'on voit. Ce matin, durant la série, c'est des anges qui sont venus annoncer, en fait, que la promesse prenait place. Puis au travers de l'ange Gabriel qui est venu annoncer à Marie, en fait, cette promesse-là. Une des plus grandes promesses. Ça a été quoi la manifestation concrète dans la vie de Marie? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Ça a été quoi son impact? Puis c'est quoi, en fait, l'impact qu'on a pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'on est concerné? Fait qu'avant d'aller plus loin, On va prier, puis je vous amène après pour la suite. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour cette période-là des fêtes, période de réjouissance, période de joie pour certains, mais ce n'est pas ça pour tout le monde. Fait que Seigneur, on veut se rappeler, en fait, qu'on soit dans la joie, dans la souffrance, qu'on soit dans la lumière ou dans les ténèbres, tu es l'espoir, Seigneur, qu'on a besoin. On a besoin de se rappeler qui tu es, ce que tu as fait, puis ce que tu veux faire aujourd'hui dans nos vies. Seigneur, on veut te laisser toute la place ce matin. Saint-Esprit, viens faire le travail dans nos cœurs que tu veux faire ce matin. On veut se soumettre à ce que tu fais. On veut te laisser toute la place. C'est en ton nom puissant, Jésus, que j'ai prié. Amen. Si j'évoque promesse pour vous, ça vous dit quoi? Promesse tout court. Ça vous dit quoi? Avoir des promesses. Je vous dis une promesse, vous avez reçu des promesses, peu importe. Juste le mot promesse, ça évoque quoi chez vous, en premier, dans votre cœur? Qu'est-ce qui monte? C'est-tu quelque chose de positif? C'est-tu quelque chose de négatif? Je ne parle pas des promesses de Dieu encore. Je parle juste d'une promesse tout court. Positif, négatif, je ne sais pas. Positif, OK. C'est bon? D'autres personnes? Moi, de mon côté, moi, ça fait comme bof. C'est spécial, hein? C'est comme, ah, ben OK, on va voir. Montre-moi, je vais peut-être croire après. Oh, tu dis des choses, OK. On va voir. On va voir si tu agis avec ce que tu dis. Puis, tant mieux si on a des belles expériences avec les promesses, mais je pense que pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de déceptions liées à des promesses. Il y a beaucoup de bof. Beaucoup de bof parce qu'on a reçu des promesses. Puis des fois, des promesses, c'est un peu sous forme de « ben je te donne ma parole, je m'engage à, je fais un vœu ». C'est des formes de promesses, « veux, veux pas ». Puis on a toutes des déceptions liées à ça parce que des gens n'ont pas rencontré leurs promesses envers nous. Je pense qu'on a tous expérimenté ça ici. Une aide qui n'est pas venue, une livraison rapide qui n'est pas arrivée. Post-Canada qui tombe en grève avant les fêtes. Je ne te regarde pas, Dan. Mais tu sais, c'est des choses comme ça. On s'attend à quelque chose puis ça n'arrive pas. Un désengagement d'une personne chère à notre cœur qui s'est engagée dans notre vie, un membre de la famille qui décide de se retirer. On n'a pas la promotion, l'augmentation qu'on aurait voulu, qui était promis, qu'on nous avait dit. C'est pas ça, finalement, ça l'a changé. Un engagement politique non respecté. Une promesse électorale qu'on nous a faite qui n'est pas arrivée. C'est une déception aussi. On nous promet un produit 100% satisfaction garantie, mais finalement, le produit ne correspond pas à ce qu'il dit. La trahison d'un ami. On n'a pas le remboursement qu'on devait avoir, qu'on nous avait promis. Fait qu'on est tous déçus, puis on est déçus pourquoi? Parce qu'on a des attentes. On espère, on souhaite, puis ça n'arrive pas. Puis ces déceptions-là amènent de la souffrance. Ça fait mal. On peut vivre du rejet au travers de certaines promesses qui ne sont pas accomplies. Sentiment de rejet, de découragement, frustration. Des fois, ça nous fait perdre espoir aussi. Puis on arrive à dire « bouf, les promesses ». Bouf. On verra. On a tous été déçus par des promesses qu'on a reçues de quelqu'un. Mais il faut réaliser aussi que nous aussi, on a déçu. Tout le monde ici, on a déçu quelqu'un quelque part. On n'a pas tenu notre parole envers nos enfants, envers des amis, envers des membres de la famille. Parce que pour X circonstances, on a manqué de temps, on a mal géré, on a vu trop gros. Hein? L'estomac plus grand que... L'appétit plus grand que la panse, c'est quoi le... Les yeux plus grands que la panse, oui, c'est ça. Donc, ça nous arrive tous. Puis si j'en viens aux promesses de Dieu, ça évoque quoi pour vous les promesses de Dieu maintenant? Là, on a vu les promesses humaines, mais c'est quoi les promesses de Dieu? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que les promesses, en fait, c'est quelles promesses que Dieu parle? Parce qu'encore là, il y a beaucoup de confusion envers les promesses de Dieu. Il y en a qui pensent que les promesses de Dieu, c'est qu'ils vont avoir le char de l'année à toutes les années, que leur compte en banque va être rempli jusqu'à déborder, qu'il n'y aura jamais de problème, que tout va fonctionner comme des roulettes, que je veux tout avoir les promotions que je veux, et qu'on pense des fois qu'on confond nos désirs avec les promesses de Dieu. Puis je veux faire un point ici, c'est que Dieu fait des promesses personnelles. Mais c'est toujours en lien avec son plan à lui, son grand plan de faire avancer son royaume, son appel sur nos vies. C'est en lien avec ce qu'il veut faire, son grand plan. Donc, quand on parle de promesses de Dieu, c'est ça. Puis, il ne faut pas oublier que les promesses de Dieu aussi, bien, la Bible est remplie de promesses de Dieu. La Bible est remplie de promesses de Dieu et toutes ces promesses-là nous concernent. Puis, on peut tous se les saisir. Mais là, tu te dis comment que je ne peux pas me fier à... En fait, comment est-ce que je peux, si je vois des gens qui ne tiennent même pas leurs promesses, il y a des gens que je vois avec mes yeux qui ne tiennent pas leurs promesses. Comment je peux me fier à un Dieu que je ne vois pas, que lui va tenir ses promesses envers moi? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est si puissant que ça? Puis le fond de la question ce matin, c'est pas tant si Dieu peut, mais est-ce qu'il veut? Puis la réponse, c'est Dieu peut et il veut manifester ses promesses dans ma vie. Puis ce matin, avec l'histoire qu'on va voir, la question nous est retournée à nous, en fait. Nous, on a tendance à pointer vers Dieu. Est-ce que Dieu va accomplir ses promesses? Est-ce que Dieu veut de faire ses promesses envers moi? Est-ce qu'il veut les accomplir? Est-ce qu'il veut les manifester? Mais souvent, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que la question, sans être posée directement, elle nous est retournée. Est-ce que toi, tu veux voir ses promesses se manifester? Parce que pour Dieu, c'est déjà un oui. La réponse est déjà oui. Mais toi, est-ce que toi, tu es prêt à dire oui à Dieu, à l'accomplissement de ses promesses? C'est ce qu'on va découvrir avec l'histoire de Marie. Vous me suivez toujours? Oui, awesome. Amen. Donc, Luc 1, 26-29. On y va. Le sixième mois. L'ange Gabriel. D'abord, la visite d'un ange. C'est quand même c'est pas une journée comme les autres. Hein? Un ange arrive. Il y a une visite qui est là. Ça fait comme, wow. Fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue. » À toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Et puis là, okay, juste, on arrête juste 2 secondes. Il y a un ange qui rentre, puis il te fait toute cette salutation-là. Wow! Je suis tellement contente d'être là. Tu es bénie. Dieu est avec toi. Et là, y a-t-il quelqu'un d'autre dans la pièce? Moi? Marie est comme là. J'essaie de m'imaginer c'est quoi cette salutation-là. Puis tout d'un coup, elle dit « troublée par cette parole ». C'est huge comme parole. Un ange qui rentre puis dit ça. Troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie, la seule chose qu'elle a faite, c'est d'être là, puis une grâce lui a été donnée. C'est quand même particulier. Elle n'a rien fait, là. L'ange arrive, puis « wow, t'as la faveur de Dieu, t'es bénie, Dieu est avec toi ». Fait qu'elle est troublée. L'ange lui dit, on continue, verset 30-33. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. N'aie pas peur, tu seras enceinte. OK, j'ai trouvé grâce, puis je vais être enceinte. OK. Tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. L'ange lui dit, n'aie pas peur, elle est troublée, il sait, n'aie pas peur. Pourtant, elle dit, mais j'ai rien fait pour trouver grâce. Puis j'imagine que ça commençait à spinner un peu dans sa tête. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Puis là, il lui fait l'annonce de la grossesse. Puis là, il lui dit un peu, bon, ben, il va être appelé fils du Très-Haut et tout ça. Puis quand il commence à décrire, en fait, qu'est-ce que l'enfant qu'elle va porter, Marie sait de quoi il parle. Elle sait. Elle sait qu'est-ce qu'il est en train d'y annoncer. Parce qu'on voit plus tard dans le texte, quand elle va visiter sa tante Élisabeth, puis qu'elle se met à dire un cantique qui sort de sa bouche, puis elle se met à décrire en fait que la promesse est en train de s'accomplir, elle savait exactement de quoi l'ange est en train de lui annoncer. Elle savait qu'en fait, elle était en train de porter le Fils de Dieu. Fait que là, j'imagine que, OK, elle est en train de processer tout ça, puis elle comprend qu'est-ce que l'ange lui dit, OK? Ça ne veut pas dire qu'elle encaisse tout, mais elle comprend. Elle comprend qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu vas mettre au monde un fils, tu vas le nommer Jésus. En fait, elle sait que c'est Jésus veut dire Dieu sauve, Dieu délivre, c'est le Messie annoncé. Donc, elle sait de quoi il parle. Puis on continue, verset 34. Marie dit à l'ange, OK, c'est beau, je comprends, là. Je connais l'Écriture, je connais les promesses, mais comment? Comment ça va arriver, ça? Parce que là, moi, je suis juste fiancée. J'habite pas encore, Marie n'habitait pas encore avec Joseph. C'est le contexte de l'époque. Elle est fiancée, elle n'habite pas avec lui. Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Comment? L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. » Écoute, c'est full fastoche. Le Saint-Esprit va venir, tu n'as rien à faire, tu vas être enceinte. Facile. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra sera appelé, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Fait qu'elle, elle dit, OK, comment ça va se passer? Je comprends ce que tu me dis, mais là, comment ça va arriver? Tu vois mon contexte, tu vois que je n'ai jamais eu de relation, tu m'annonces que je vais être enceinte. Puis là, l'ange lui dit, bien, ça va être par le Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire. La conception, c'est par le Saint-Esprit. Dieu va venir, il va te couvrir, le Saint-Esprit est là. Et puis, Marie était comme, wow, OK, ça vient. Puis elle comprend que, puis l'ange est en train de lui expliquer, bien, il faut que ça, c'est un Saint-Enfant, donc il faut qu'il soit engendré par le Saint-Esprit. Tu fais partie du plan, mais le Saint-Esprit est là parce qu'on l'appelle Fils de Dieu. Il y a quelque chose là qui est en train de prendre place. Puis comme elle est en train d'encaisser tout ça, comme elle est en train d'essayer de comprendre tout ça, puis comment ça va se passer? Est-ce que je vais sentir une boule qui va arriver? Est-ce que je vais me sentir remuée quand ça va arriver? Il n'y a rien qui nous dit comment c'est arrivé, en fait, la naissance. Dans certains textes qui disent, bien, à partir du moment où l'ange a été là, elle était déjà enceinte, on ne sait pas. Mais comme pour la rassurer, l'ange lui dit, regarde, là peut-être que ça te semble impossible tout ce que je te dis, peut-être que tu ne comprends pas tout, mais regarde ta parente Élisabeth, là. Elle aussi c'est impossible, elle était stérile. Pourtant maintenant elle est enceinte de son sixième mois. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, Marie est comme, OK, j'imagine comme, je ne comprends pas tout, mais sa première réponse a été, au verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. » OK, je n'encaisse pas tout, mais je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Avec notre simple oui, des fois, sans qu'on comprenne tout, Dieu est en train d'activer les promesses dans sa vie pour nous. En fait, les promesses sont déjà là, comme Marie. L'ange est venu, il a annoncé, on ne sait pas le moment qu'elle a, que ça a été conçu, mais on sait que ça a été conçu. Elle a reçu la parole et la vie a pris. Les promesses ont été activées. C'est un oui actif. Mon oui aux promesses de Dieu vient avec d'autres promesses, comme Marie. Puis, comme Marie, nous aussi, on a déjà ces trois promesses-là. Le premier, puis c'est ce qu'on va voir, c'est que j'ai la faveur de Dieu déjà. Dieu est avec moi. Puis troisièmement, rien n'est impossible à Dieu dans ma vie. Est-ce que vous le croyez? Amen. On va voir ça. Dans les promesses que Dieu a pour moi, premièrement, j'ai la faveur de Dieu. Tout le monde ici, si tu dis oui à Dieu, si tu dis oui à suivre Dieu, à avoir Dieu dans ta vie, faire de lui ton Seigneur, ton Sauveur, tu as la faveur de Dieu. Tu n'as pas à la demander, à la quémander, à faire des efforts pour l'avoir. Tu as déjà la faveur de Dieu. Tu es déjà plein de grâce comme Marie. Tu as sa faveur. Tu es pleinement béni. Puis certains mythes des fois qu'on a, certains mensonges des fois qu'on a, c'est qu'on va dire, ben Dieu, il y a des favoris. Parce que je vois que pour certaines personnes, ça va mieux que d'autres. Lui, il me semble qu'il s'en sort mieux que moi. Il me semble que lui, ça va bien, ses affaires. Dieu favorise certaines personnes. ou à cause de mes épreuves, de mes difficultés, on dirait que j'ai plutôt la malédiction que la bénédiction. Il y en a-tu déjà qui ont pensé ça ici? Toutes tes affaires brisent, ça n'arrête pas, une épreuve après l'autre. Oui, hein? Je ne corresponds pas aux critères. Ma vie n'est pas alignée parfaitement, donc je ne peux pas avoir la faveur de Dieu. Je n'ai pas le talent, l'énergie, les capacités de quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai peut-être pas la faveur de Dieu. Puis pourtant, si je regarde le CV de Marie à la base, c'est quoi son CV? Qu'est-ce qu'elle a sur son CV comme compétence? Pardon? C'est une femme, oui. Amen. Amen. Ah, c'est terminé pour ce matin. Marie était disponible. Il y a eu la disponibilité. Marie, en fait, n'a rien fait. Elle n'avait aucun talent, don particulier qui a fait qu'elle a été choisie. Il n'y a rien qu'elle a fait qu'elle a pu attirer la faveur de Dieu sur elle ou être plus favorisée qu'une autre. Ça a été Marie, une jeune fille vierge. Elle était disponible. Elle avait la volonté de servir. Puis elle a dit oui. C'est ça qu'il y avait sur son CV. Trois choses. Quatre choses. C'est facile des fois de voir la faveur sur la vie des autres. On va continuer dans Luc 1, 39-42. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Là, je vous remets dans le contexte. Marie, l'ange vient de la quitter, mais il a dit juste avant de partir, « Regarde ta parente Élisabeth qui est enceinte de 6 mois. » Juste te rappeler qu'elle était stérile, maintenant elle est enceinte. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Fait qu'elle, Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dépêche. Elle s'en va voir sa parente. Elle se rend dans la région. Elle entre dans la maison de Zacharie, elle salue Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, il a remué brusquement en elle, puis elle est devenue remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi toutes les femmes, et parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. » Marie, elle se dépêche d'aller se réjouir de la bénédiction pour Élisabeth. Il devait avoir une part aussi de dire, ben, je vais aller voir si elle est enceinte aussi. Me connaissant, moi, je pense qu'il y aurait une part de ça aussi. Mais je crois aussi qu'elle voulait se réjouir qu'elle était enceinte, maintenant elle est stérile. Il y a une joie là-dedans. Puis, excuse-moi, j'ai dit, j'ai inversé. Vous m'avez compris. Amen. Fait que, puis Élisabeth qui voit rentrer Marie, puis l'enfant bondit, puis elle aussi, elle se réjouit. Puis ça me faisait penser que notre cœur, en fait, c'est facile de voir la faveur chez les autres, mais quand on apprend à se réjouir pour la bénédiction des autres, la faveur pour les autres, Dieu aime ça. Dieu se réjouit de ça. C'est un rappel aussi que Dieu, quand on voit Dieu agir dans la vie des autres, c'est un rappel que oui, il agit là, mais ça veut dire qu'il peut aussi agir dans ma vie. Amen. La grâce, puis la bénédiction, puis la faveur de Dieu, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une classe de gens spéciales. Ce n'est pas pour des compétences particulières. Ça ne va pas avec ton niveau de prospérité. La grâce, la bénédiction, la faveur, c'est pour tous. Les promesses de Dieu sont pour tous ceux qui ont dit oui à Dieu. Être béni aussi, quand on dit que c'est pour tous, oui, mais ça ne veut pas dire que bénédiction de Dieu, faveur de Dieu, ça veut dire vie facile. Je vais recommencer. La faveur, la bénédiction ne veut pas dire vie facile, au contraire. Tous les personnages de la Bible nous montrent qu'ils ont tous eu une vie facile. Il n'y a jamais rien eu. Ils ont avancé sur des nuages. Sont arrivés aux promesses. Non, hein? Ils ont eu des vies difficiles, ils ont eu des épreuves, ils ont eu des luttes. Mais dans leur chemin, entre je reçois la promesse de Dieu, que Dieu est là, que Dieu est fidèle, que Dieu restaure, que Dieu guérit, toutes les promesses de la Bible, que Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il ne nous rejette pas, qu'il pourvoit nos besoins, c'est toutes des promesses qui sont pour nous. On les a déjà, ils sont déjà dites, ils sont déjà lancés. Mais entre j'entends puis je reçois, puis entre je la vois vraiment se manifester, il y a un petit chemin, il y a un petit processus qui est là, Puis il ne sera pas nécessairement facile, ce processus-là. En fait, c'est bon signe. C'est bon signe s'il y a des difficultés. Parce que si tout serait facile, pourquoi j'ai besoin de promesses? Pas besoin de promesses si tout est facile. Les promesses sont là parce que Dieu veut nous encourager. Il veut nous encourager qui est là, qui ne nous abandonnera jamais. La Bible, elle nous rappelle sans cesse que pour chaque circonstance, chaque situation, chaque difficulté, chaque joie, chaque épreuve, chaque victoire, chaque échec, chaque perte, chaque douleur, chaque pleur, chaque deuil, chaque incompréhension, chaque cri, chaque déception, chaque épuisement, incertitude, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Il y a un petit plus à aller chercher. Dieu, il y a une promesse pour chaque situation. Il y a une promesse pour toi, là, dans ce que tu es en train de vivre, que tu peux saisir maintenant. Dieu ne joue pas avec nous. Il ne s'amuse pas à nous envoyer des circonstances pour voir. Hein? Puis peut-être que je vais y envoyer ma promesse, peut-être pas. Non, Dieu ne joue pas avec nous. Dieu veut manifester ses promesses dans notre vie. Dieu veut. Je l'ai écrit. Dieu veut. Dieu veut. Il y a une autre promesse aussi, avec notre oui, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. C'est pour ça, hein, Emmanuel, ça veut dire quoi? Oui, pas juste que Dieu est là, il est avec nous. Pas juste présent, là, quelque part, OK, je sais qu'il est là. Non, il veut être avec nous, Dieu avec nous. Marie est troublée par la parole de l'ange. Hein? Elle est troublée parce qu'elle dit, l'ange vient, t'a trouvé grâce, t'es bénie. Puis là, elle essaye de tout, tu vas être enceinte, n'aie pas peur. Puis elle essaye de tout comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Elle ne sait pas encore de quoi il s'agit, elle est troublée. L'ange lui rappelle, n'aie pas peur, Dieu est avec toi, tu as trouvé grâce, tu vas être enceinte. Il lui rappelle tout ça. Puis ce qu'il faut réaliser, c'est que en fait, elle est en train d'enfanter Dieu. Elle est en train d'enfanter Dieu. Fait qu'elle réalise que ce n'est pas une grossesse normale non plus. Quand Dieu nous donne des promesses, Dieu nous appelle à une vie qui n'est pas normale non plus. Quand on est croyant, on a dit oui à Dieu. C'est une vie qui ne ressemble pas aux autres vies. Parce que notre vie, elle repose sur Dieu. Elle ne repose pas sur nos circonstances, elle ne repose pas sur des gens, l'instabilité des gens, l'instabilité du monde. L'ange, il rappelle à Marie, il rappelle les Écritures, la prophétie qui devait descendre du roi David, puis ça, c'était la descendance de Joseph. N'aie pas peur, Emmanuel est là, il est avec toi. Il lui rappelle la fidélité de Dieu, constante. Il rappelle, tu ne seras pas seul. Tu vas vivre la promesse de Dieu, mais tu ne seras pas seul. Dieu ne nous laisse pas seul avec ses promesses. Il ne nous laisse pas seul. Dieu est là du début à la fin. Elle a dit oui, mais sa situation, OK, essayez de comprendre sa situation, Marie est fiancée. Elle est fiancée, elle sait qu'elle est enceinte. Joseph n'est pas là. Comment ça va être perçu? Juste socialement. OK? Puis c'est pour ça que Dieu a dû envoyer un ange à Joseph en passant. Vous connaissez ceux qui connaissent l'histoire pour essayer de, OK, non, Marie est vraiment enceinte, puis elle est vraiment enceinte du Saint-Esprit, là. Elle n'est pas allée voir un autre homme. Mais de comprendre un peu son contexte, OK, c'est, tu me dis que je suis bénie, mais ça, c'est une drôle de bénédiction parce qu'aux yeux des autres, là, ça a l'air de quoi? Dieu n'était pas en train de la faire pécher loin de là, mais ça pouvait avoir l'apparence de. Parce qu'elle est enceinte, puis elle est fiancée, elle n'habite pas avec Joseph encore. Fait que forcément, les gens devaient penser, soit ils ont déjà eu des relations avant leur mariage, ou elle était voir quelqu'un d'autre. C'est ce qui a émergé. Puis selon la loi juive, Marie s'était prise en flagrant délit, soit d'adultère ou d'avoir été avec un autre homme, bien, elle pouvait être lapidée, en fait, tuée, selon la loi juive. Fait que vous voyez un peu le contexte de Marie, c'était pas facile. Ah, t'es bénie, t'as la faveur de Dieu. Dieu est avec toi. Wow, OK. C'est gros ce qui m'est proposé. C'est gros ce qui m'est proposé. C'est une drôle de bénédiction, non? Puis pourtant, c'est la plus grande des bénédictions, la plus grande des promesses de toute l'humanité. Le processus de la promesse, en fait, ce que j'ai dit entre les deux chemins, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Marie, la conception de Jésus, c'est venu de Dieu. On dit que c'est une conception virginale, OK? C'est le Saint-Esprit qui est venu. Mais Marie, la naissance, elle n'a pas été virginale, hein? C'est vrai que Marie a dû vivre la grossesse. Elle a vécu les douleurs, elle a vécu les déchirements, les vergetures, tout ce qui vient avec une grossesse. Elle a dû l'accoucher, cet enfant-là. Elle a eu des douleurs, tout ce qui vient avec. Souvent, les promesses de Dieu, c'est ça. Dieu nous donne des promesses, mais c'est au travers des luttes, des épreuves, des tempêtes, c'est au travers de toutes les difficultés que Dieu manifeste ses promesses, que Dieu est avec nous. Puis qu'on va vivre la promesse comme ça. La promesse va émerger comme ça. Vous savez, j'ai fait une pierre au rein il y a 2 semaines. Puis, tu sais, le docteur m'a promis qu'elle allait sortir. C'est vrai. Mais le chemin entre sa promesse qu'elle va sortir puis qu'elle sorte réellement, je peux vous dire que ça ne s'est pas fait facilement. Ça ne s'est pas fait sans douleur. Amen. Souvent, on va douter de la présence de Dieu dans le processus à cause de tout l'inconfort, la souffrance des fois que ça amène, des mensonges qu'on a, des fausses conceptions qu'on a. Puis ça, c'est des mythes de la présence de Dieu, c'est des mensonges de la présence de Dieu sur nos vies, dans nos vies. Un des mythes, c'est « Dieu m'a abandonné parce que je ne suis pas assez bon ». C'est totalement faux. La Bible promet le contraire, que Dieu m'abandonnera jamais, abandonnera jamais ses enfants, que sa présence ne dépend pas de ma perfection, mais de sa grâce. Sa présence ne dépend pas de mes performances, elle dépend de sa grâce à lui. Un autre mythe, je ne ressens pas Dieu parce qu'il n'est pas là. Si je ne ressens pas Dieu, il n'est pas là. Il n'est tout simplement pas là, je ne le sens pas. La Bible nous dit le contraire, que Dieu est toujours présent, même si je ne le sens pas ou je ne le ressens pas. Sa présence n'est pas basée sur mes sentiments, mais sur sa promesse. Dieu ne dépend pas de mes émotions puis de mes cycles hormonaux. Un autre, Dieu est trop occupé pour s'occuper de moi. Il me semble qu'il y a bien des choses à faire que de venir s'occuper des petits détails de ma vie. Pourtant, Dieu connaît, la Bible nous dit que Dieu connaît chaque détail de nos vies, que même tous nos cheveux sont comptés, pour vous dire. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Il se soucie profondément de chacun de nous. Un autre, si je souffre, ça démontre que Dieu n'est pas là. Hein? Je n'ai parlé de la souffrance. Ah, Dieu, je souffre, mais Dieu, t'es où? Pourtant, ça dit que Dieu est proche de ceux qui souffrent, de ceux qui ont le cœur brisé. Il utilise même les moments difficiles qui nous arrivent pour nous transformer, nous enseigner. On l'aime moins, celui-là. Un autre, je dois être solide spirituellement pour mériter sa présence. Puis pourtant, ça dit dans la Bible que Dieu se plaît dans nos faiblesses. Que c'est quand on est faible qu'on est fort. L'apôtre Paul va dire ça. C'est quand je suis faible que je suis fort. Dieu est là toujours pour nous soutenir. Un autre, avec mon passé. Tu ne connais pas mon passé, mes luttes que j'ai actuellement. C'est normal que Dieu ne veuille pas être avec moi. Moi-même, je me tiendrais loin de moi. Puis pourtant, la Bible nous rappelle que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Il est prêt à pardonner, toujours à restaurer. Mon dernier point, mon troisième point, avec mon oui, j'ai la promesse que rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien. L'ange rappelle à Marie, regarde Élisabeth. Il a pris la peine de lui rappeler. Regarde-la. C'est impossible pour elle d'être enceinte. Mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu se plaît dans les limitations puis les impossibilités. J'ai une photo de, certains le connaissent, c'est sûr, Nick, je me suis pratiquée à dire son nom, Nick Vujicic. Nick Vujicic, c'est qui Nick Vujicic? C'est un conférencier chrétien qui est né pas de bras, pas de jambes. Et le titre de son livre, « La vie au-delà de toute limite ». Quand même intéressant. C'est vraiment touchant, cet homme-là. C'est ça, je dis, il est né. Puis son slogan, en fait, c'est « pas de bras, pas de jambes, pas de limites ». D'où le titre de son livre. Ce qu'il raconte dans son livre, c'est que la vie n'a pas toujours été facile pour lui, vous pouvez l'imaginer. Il a prié pour des miracles, évidemment. C'est pas venu. En fait, il a pas eu le miracle que lui voulait. Puis à un moment donné, il a réalisé que ben, si moi, je devenais un miracle, en fait, c'est que Dieu qui a déposé dans son cœur, si moi, je devenais un miracle. Je n'ai pas le miracle que je veux, mais Dieu m'appelle à être un miracle pour les autres. Puis en fait, Dieu l'utilise pour conférencier, il encourage les autres. Il est marié, il a 3 enfants, il fait du surf. En fait, il n'y a pas trop de limites dans sa vie. C'est ça qui est extraordinaire. Puis c'est un rappel pour nous de dire, des fois, on pense tellement qu'on est limité. On limite Dieu par nos limitations, en fait. On regarde quelqu'un comme ça, puis on se dit, ouais, je ne sais pas, tu sais, il me semble que ta vie, ta qualité de vie, il me semble que c'est très limité. Une vie un peu gâchée, puis lui, montre totalement le contraire. On limite Dieu par nos limites, parce qu'on croit que Dieu a des limites, en fait. De un, parce que, bon, il y a des lois de la nature qui font que Dieu est limité, mais on oublie que c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. On croit que Dieu, en fait, que nos péchés sont trop graves pour qu'il intervienne. Souvent, c'est ça. Ma dépendance est trop grande, Dieu ne peut pas rien faire. C'est complètement faux. Que Dieu est trop grand pour s'intéresser à mes petits problèmes, je l'ai dit tantôt. Que les miracles ne sont plus pour nous aujourd'hui. Dieu aide les autres, mais pas moi, parce que je ne le mérite pas. Que si mes circonstances ne changent pas quand je prie, c'est parce que finalement, Dieu ne veut pas. Et c'est totalement faux. Dieu en son temps, Dieu a un temps, dans son temps, à sa manière, Dieu agit, Dieu active, peu importe les circonstances. J'inviterai les musiciens à venir me trouver pour la fin de mon message. La Bible dit que Dieu, c'est ça, c'est le Dieu des temps, des circonstances, qui est capable de faire pencher même le cœur des dirigeants dans sa main. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Puis ce matin, au travers de l'histoire de Marie, qu'on est habitué de lire, surtout dans cette période de l'année, tu te rappelles que Marie a été choisie pour l'impossible. Mais c'est un rappel aussi que nous aussi, Dieu nous a choisis pour l'impossible. Dieu veut venir dans nos impossibilités, dans nos limitations. Dieu se plaît à être là. D'ailleurs, Dieu est venu pour accomplir l'impossible au travers de Jésus. Vous savez ça? En Jésus se trouvent toutes les promesses de Dieu. Dans 2 Corinthiens 1, 20, ça dit, « En effet, pour toutes les promesses de Dieu. » Je vais recommencer. « En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons « Amen à Dieu pour sa gloire. » Toutes les promesses de Dieu se trouvent en Jésus. C'est en lui que se trouve le oui. Dieu veut. Dieu veut. Oui à Jésus, c'est un oui aux promesses de Dieu dans nos vies. Dieu s'est incarné en homme pour accomplir ses promesses. Jésus, Dieu fait chair, pleinement homme, pleinement Dieu. Ça prenait Marie pour l'accomplissement de la promesse ultime qui touche toute l'humanité. Pour vivre puis manifester les promesses de Dieu, Marie, elle a dû dire « Oui, je suis la servante du Seigneur. Fais selon ta volonté. Fais selon ta volonté. » Puis Dieu l'a aidée à enfanter Jésus. Il y a 5 leçons importantes aujourd'hui si tu décides de dire oui à Dieu. Premièrement, Dieu veut. C'est une grosse... Je l'ai dit, hein, mais Dieu veut. Parce que tu savais quoi? On l'oublie. Dieu veut. Tu as déjà son oui. Tu es déjà béni. Tu as déjà sa faveur. Deuxièmement, Dieu est avec toi. Dieu l'a promis, il est là, il ne t'abandonnera jamais. Dieu est avec toi. Troisième chose que je veux que tu repartes, c'est qu'il va t'emmener au-delà de tes limites si tu dis oui. Il va t'emmener au-delà de tes limites parce que quoi? Parce que Dieu n'est pas limité. puis il n'est pas limité à tes limites. Quatrième point, tu ne te fies pas à ce que tu vois présentement dans ta vie. Fie-toi pas à ce que tu vois. Fie-toi pas à tes circonstances. Fie-toi pas à tes capacités. Fie-toi pas à tes limitations. Fie-toi pas à tes échecs. Parce que Dieu est au-dessus de ça. Cinquième, n'aie pas peur d'avancer. C'est pas juste un oui passif. Quand on dit c'est un oui qui avance. OK, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. J'avance. OK, j'avance dans tes plans. Je m'implique. Je me place là où tu me places, je m'implique. Je veux avancer avec toi. Je veux servir avec toi. Je veux aimer avec toi. Je veux être généreux avec toi. Dieu va t'aider à enfanter les promesses qu'il a mises dans ta vie. Le Saint-Esprit va te couvrir aussi, mais encore plus que ça. Vous savez, l'incarnation de Jésus a réalisé un des plus grands désirs de Dieu. Ce n'était pas juste que Dieu, il s'est annoncé comme Emmanuel, Dieu avec nous, mais ça ne suffisait pas Dieu encore. Parce que la mort de Jésus a fait que, parce qu'on était séparés de Dieu, à cause du mal, à cause du péché qu'on a dans nos vies, Jésus a porté sur lui, sur la croix, nos péchés. Puis c'est pour ça qu'il a pu le faire, parce qu'il a pris une forme humaine. Sans péché, il a pris nos péchés. Il était pleinement Dieu, pleinement homme, en train de satisfaire la pleine justice que mérite le mal, mais satisfaire son amour aussi de nous sauver, de nous réconcilier avec Dieu. Puis c'est lui qui a payé à notre place. Puis par ce sacrifice-là, par son corps qui a été brisé, son sang qui a été déversé pour le pardon de nos péchés, en acceptant ce que Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix, en disant oui à Dieu, oui, j'accepte ce sacrifice-là pour ma vie. J'accepte que c'est toi qui as payé le prix à ma place. Je veux te recevoir dans ma vie. Je veux que tu viennes me pardonner. Je veux que tu viennes me sauver, me restaurer, me délivrer. Je veux que tu sois le guide de ma vie maintenant. Tu as accès déjà à toutes les promesses de Dieu. Parce que Jésus dit que si tu reçois, tu acceptes Jésus, le don que Jésus a fait à la croix pour toi, que tu reçois en cadeau la vie, la mort et la vie de Jésus, parce qu'il est ressuscité, mais tu reçois la vie de Jésus en toi. En fait, c'est plus juste Dieu avec toi, c'est Jésus en toi. Puis en Jésus, il y a toutes les promesses de Dieu. Il y a la vie éternelle, mais il y a toutes les promesses aussi. Jésus en toi. C'est pour ça que Jésus s'est incarné. Jésus veut venir en nous. Puis vous savez, je fais juste une petite parenthèse, mais souvent on pense que on a vécu tous des déceptions, des blessures par rapport à des engagements que les gens ont fait, qui n'ont pas respecté, qui n'ont pas des promesses non tenues. Puis souvent on pense que Dieu va nous préserver de d'autres souffrances comme ça. Tu sais, j'ai été blessée, mettons, par le rejet. Je pense que Dieu ne permettra plus que je vive le rejet, mais au contraire, Dieu va permettre encore des fois des situations de rejet parce que c'est lui qui veut venir te guérir. En fait, il veut que ton rejet, ta blessure de rejet, en fait, que ce ne soit plus un homme ou que ta vie ne dépende plus de quelqu'un ou d'une personne pour venir te t'ébranler puis te blesser, mais que ta vie dépend de lui, puis de son acceptation, puis du fait que lui ne t'abandonnera jamais. Car même que tout le monde t'abandonne, lui ne t'abandonnera pas. Fait qu'on pense que Dieu va nous préserver des fois des souffrances. Puis c'est pas parce que Dieu est masochiste, hein? C'est parce qu'il veut venir nous guérir complètement. Parce que notre vie ne dépend finalement que de lui. Puis toi aussi, t'es appelé enfant de Dieu, comme Marie. À partir du moment où tu dis oui à Dieu, la présence de Dieu vient en toi. L'Esprit de Dieu vient en toi. Puis toi aussi, tu vas enfanter Jésus. Puis tu peux même être une manifestation des promesses, d'une promesse de Dieu pour quelqu'un. Dieu va se servir de toi. Jésus, c'est le Verbe, c'est la promesse incarnée. Lui-même, c'est la promesse qui contient toutes les promesses de Dieu pour toi. Est-ce que tu veux dire oui à Jésus ce matin? Que tu ne sois pas croyant, que tu dises, « Ouais, moi, je veux Jésus. Je le veux. Je veux ses promesses pour moi, mais je veux être réconciliée avec Dieu ce matin. » Je t'invite à te lever. Puis ce matin, on va prendre la Sainte-Seine aussi. Fait que je vous invite à vous lever. Puis j'invite à se lever tous ceux ce matin qui ont déjà Jésus dans leur vie, mais moi, je veux vivre toutes les promesses que Jésus a pour moi. Je veux vivre tout ce que Dieu a pour moi. Je vous invite à vous lever aussi. Puis ce matin, en prenant le pain et le jus de raisin, puis je vais vous inviter à venir durant le chant, non seulement à vous imprégner des paroles, mais de ce que Jésus a fait, en fait. Jésus, en mourant sur la croix, il a activé toutes les promesses de Dieu pour nous. En ayant le oui de Dieu déjà, Dieu s'est déjà engagé envers nous. Mais est-ce que moi, je veux m'engager envers lui? Puis c'est un peu ça, c'est un rappel de l'œuvre que Jésus a faite pour nous, de tout ce qu'il a accompli pour nous, que lui aussi, dans son processus, pour qu'on puisse vivre les promesses, a souffert. Pour qu'on puisse recevoir cette vie-là, ces promesses-là. Puis qu'il soit toujours avec nous. Son corps a été brisé, son sang versé. Pour nous réconcilier avec lui, par le pardon de nos péchés, et ressusciter pour nous donner la vie. Jésus en nous. Pour chaque matin, chaque situation, il y a une promesse. Vous savez qu'on est des parents, ceux qui ont des enfants, on aime nos enfants, puis quand on parle de promesses, d'engagement, bien on promet de les aimer, de les chérir, qu'il y ait un toit, de la nourriture, qu'ils méritent ou qu'ils ne méritent pas. Je veux dire, à un moment donné, on est parents, on prend soin de nos enfants. Mais on ne le fait pas par devoir. On le fait parce qu'on les aime. On prend soin de nos enfants, on les aime, nos enfants. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un devoir qu'il y a envers nous. Dieu ne nous doit rien, il le fait par amour. Mais il y a un engagement de notre part quand même. Il y a une limite à ce qu'on peut donner à nos enfants aussi, dans le sens que nos enfants, bien, ils collaborent aussi avec nous, ils reçoivent ce qu'on leur donne. À partir du moment, un jour, où ils grandissent, ils font des choix différents, il y a une certaine limite qu'on veut, mais eux ne veulent pas. C'est la même chose avec Dieu. Dieu attend notre oui. Dieu veut. Il a dit oui. Il attend que toi, tu veuilles et que tu dises oui aussi. Veux-tu donner ton oui à Jésus ce matin, à t'engager de le suivre de tout ton cœur? C'est la question ce matin. Tu n'as pas besoin de te sentir capable ce matin. Tu n'as pas besoin d'avoir des compétences particulières ce matin. Tu n'as pas besoin de te sentir aligné avec Dieu ce matin. Pas du tout. Peu importe où tu es ce matin. Peu importe où tes pensées y sont. Peu importe ce que tu as fait hier soir. Tu sais que ça n'honore pas Dieu. Dieu t'attend. Il t'attend avec ton oui. Puis ce matin, tu peux recevoir sa grâce, sa faveur. Dieu est avec toi. Et Seigneur, merci. Merci pour tous ceux qui sont debout, Seigneur, qui veulent plus de toi. Seigneur, on veut plus de toi. On veut tes promesses. Seigneur, tu veux nous donner tes promesses. Elles sont déjà là. Tu veux les manifester. Mais tu veux notre oui, Seigneur. Seigneur, viens prendre notre vie ce matin. On veut te suivre de tout notre cœur. On veut s'engager envers toi de tout notre cœur. On veut, Seigneur, te suivre. On veut que tu viennes activer tes promesses, Seigneur. Elles sont déjà là. Merci pour ta fidélité, pour tes bontés, pour ta vie. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui faillit, Seigneur. Tu nous as montré, tu le démontres encore, que tu es un Dieu fidèle, qui répond toujours oui, Seigneur. Seigneur, je te demande de venir enlever tous les mensonges qu'on a pu nourrir pendant des années, des mois, des jours, au travers des déceptions, au travers des blessures, Seigneur. Viens briser chaque mensonge, puis viens remplacer par ta vérité, Seigneur. La croix est la plus grande preuve de ton amour. La croix est l'accomplissement de toutes les promesses. Seigneur, tu veux venir en nous. Viens, Seigneur. On t'invite ce matin. Viens faire tout ce que tu veux dans nos vies et qu'on puisse incarner cette promesse-là de Jésus dans nos vies. Puis devenir une promesse pour les autres aussi, Seigneur. Merci, Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Je vous invite durant le chant à venir prendre les éléments. Il va y avoir le chant là dans le feu. Peu importe qu'est-ce qu'on vit, peu importe la tempête, il y a une grâce pour toi. Il y a une promesse pour toi. Il y a la faveur de Dieu pour toi qui est là. Peu importe ce qui est sombre autour de toi, Jésus est là. Ça dit, je sais que je ne serai jamais seule. Et c'est totalement vrai. Puis je vous invite à vous l'accaparer ce matin. À pas juste le chanter, mais Seigneur, des fois, on a besoin de prier, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité ce matin. Puis viens me montrer que tu es là avec moi. Amen.